Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Allez, salut, bienvenue à tous. C'est lundi 19h et il est l'heure de votre émission 100% football, le RKS Foot Time Show. Comme d'habitude, je suis bien sûr accompagné de mes deux acolytes. Salut Kevin.
Et salut Melvin, salut à tous et j'en profite pour te féliciter pour cet heureux événement.
Eh bien écoute, je t'en remercie, c'est la plus belle chose qui arrive au monde.
Voilà, exactement, donc profitez à fond et puis une pensée pour Madame Melvin aussi.
Voilà, on la salue Julie. Bon Pierrot, comment ça va?
Eh bien, ça va, merci. Et toi Melvin, alors t'arrives à dormir un petit peu quand même la nuit?
J'arrive à dormir, j'ai ma femme qui est extraordinaire, qui m'aide justement à dormir pour être à peu près frais la journée.
Il veut se rattraper de son carton rouge de la semaine dernière.
Non, même pas. Je vous avoue que ça l'a fait rire. Ça va. J'ai très peur aujourd'hui, je vous sens dans une forme.
Aujourd'hui.
Là, je vous sens dans une forme incroyable. Et justement, c'est de bon augure parce qu'on a un programme aujourd'hui. Il faut être en forme. On vous a concocté quelque chose de spécial.
Exact.
C'est une émission spéciale coup de gueule.
Ouais.
Parce que c'est vrai que ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu de football. Maintenant, on arrive sur une saison qui démarre. Et je peux vous dire qu'on a des choses à dire. On a envie de râler. On a envie de poser un peu nos points sur la table. On va parler d'abord, dans un premier temps, du cas Griezmann, qui a beaucoup fait parler. C'est le coup de gueule de Pierre. Il va nous dire pourquoi. On réagira bien sûr avec Kevin et on verra si on partagera son avis ou pas. Mon coup de gueule à moi, c'est le Paris Saint-Germain et ses cas de Covid. On en parlera aussi, ça tombe très bien puisqu'il y a eu l'intervention de Leonardo hier dans le CFC, qui était d'ailleurs très intéressante. J'ai beaucoup apprécié. Et aussi Mbappé qui s'est exprimé dans l'émission de Téléfoot. Donc on va pouvoir réagir là-dessus. Le troisième coup de gueule, c'est celui de Kevin, c'est celui du Barça et notamment de Léo Messi. C'est le feuilleton qui s'est fini incroyablement.
Ouais.
Je pensais pas que ça allait être aussi court.
Il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé, notamment à la fin.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Énormément de choses à dire. Et dans cette première partie, on va parler de la Ligue des Nations, messieurs, puisque vous le savez, il n'y a plus de matchs amicaux en Europe. C'est remplacé par une Ligue des Nations qui est une compétition, je trouve, plutôt assez sympa.
Parce que ça
permet de donner un petit côté compète. Avant de jouer l'Euro,
ça motive un peu.
Avant de jouer les Coupes du Monde.
Ça motive davantage.
Mm. Ce qui me plaît également, c'est que je trouve qu'on a des poules homogènes. Il y a toujours 2-3 équipes qui sont intéressantes.
C'est
pas des matchs amicaux où on va faire France-Azerbaïdjan sans dénigrer, attention, les petites équipes.
Il y a un groupe là, de 3 équipes, le groupe D, je sais plus combien, là tout en bas.
Ouais.
Celui-là.
C'est celui où il y a les îles Féroé.
Il n'y a pas de joueur professionnel. Je veux dire que c'est le 10.
Ah bah bientôt avec Pierre, on va s'inscrire.
Je crois que les 3 équipes, elles jouent à la main là. C'est du handball cette poule.
C'est Andorre, îles Féroé. Parce que j'ai vu le match amical. Déjà, quand j'ai vu les tribunes.
Ça change pas beaucoup d'habitude l'avantage là. Ça reste.
Non, mais même le stade. On était presque à Eugène Thénard et Chirol. Tu te rends pas compte.
Ça me rappelle le stade de Fitilieu là, quand je vais voir mon copain jouer au foot en 17e division.
Il y a eu des chocs notamment. J'ai envie de parler d'une équipe en particulier, c'est l'Allemagne. Qui a joué sans ses 4 du pays, puisque ceux du Bayern de Munich n'étaient pas sélectionnés. Mais l'Allemagne, c'est un match nul face à l'Espagne, un autre match nul hier face à une vaillante équipe de la Suisse.
Oui.
Messieurs, pour moi, ça fait partie des favoris, mais sans les cadres, je les trouve quand même très légers.
Ouais, bon, de toute façon, l'Allemagne, ça fait partie peut-être de ces équipes qui sont un petit peu encore en reconstruction, enfin, un petit peu comme l'Italie, un peu comme l'Espagne aussi l'a été après des échecs, notamment lors de la dernière Coupe du Monde. Après, moi j'ai quand même confiance en cette équipe parce que, à l'image du Bayern, où il y a beaucoup de joueurs allemands quand même, il y a pas mal de jeunes.
Je trouve
que c'est quand même jeune et c'est pas mal. Comme tu l'as dit, en plus, il y avait des cadres en plus qui étaient absents. Donc, ça laisse présager de bonnes choses. C'est jamais facile de jouer contre la Suisse, même si la Suisse, c'est pas un très grand club, une très grosse nation du foot.
Ouais, c'est compliqué.
C'est compliqué parce que ça joue un jeu fermé. Souvent, historiquement, ça a toujours été des grosses défenses. Moi, j'ai rien d'autre à dire dessus, mais faudra s'attendre bien évidemment à ce que l'Allemagne soit là sur les prochaines échéances, que ce soit la Ligue des Nations ou même l'Euro.
Je pense aussi qu'ils ont un des effectifs les plus complets au niveau européen.
Ouais, moi je les vois pas jouer le dernier carré pour autant. Quand tu vois qu'ils ont amorcé la reconstruction autour d'un joueur comme Draxler qui joue 10 minutes toutes les 3 semaines au Paris Saint-Germain. Oui, c'est un effectif jeune, c'est un effectif qu'il faudra reconstruire. Le problème pour moi, c'est que cette nouvelle équipe de l'Allemagne, elle est toujours gérée par la même personne, par le même entraîneur. Mmh. Et j'aurais aimé aussi là-dessus qu'il y ait un peu de renouveau, parce qu'il y a de très jeunes entraîneurs allemands qui percent, on l'a vu dans le dernier carré là, de la Ligue des Champions. Et je pense que ce serait bien comme ça d'insuffler aussi un nouveau souffle, parce que je pense qu'à un moment, il va y avoir une rupture qui va se faire liée aux générations, hein, entre l'entraîneur et son banc. Quand tu commences à avoir 30, 40 ans, il y a beaucoup d'estime, mais parfois le message n'y passe pas aussi bien. Donc je pense que la limite de l'exercice, ça va se faire là. L'Allemagne reste un très beau pays, sortira des poules, je pense parmi les deux premiers, voire en étant premier. Après, c'est pas l'année prochaine que je les vois aller dans le dernier carré. Je pense qu'il faudra encore attendre.
Moi, je pense qu'honnêtement, la fin de Joachim Löw, c'était 2020, après l'Euro. Mmh. Sauf que malheureusement, l'Euro s'est pas joué. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faudrait vraiment donner un nouveau souffle, parce qu'ils ont un effectif très très jeune qui pourrait être accompagné merveilleusement bien par notamment, par exemple, l'entraîneur du RB Leipzig. Pourquoi pas l'entraîneur du Bayern, hein, qui pourrait.
Qui a été son adjoint.
Exactement, qui a été son adjoint. Donc je pense que ça serait une bonne chose. Une autre équipe qui m'a surpris, messieurs, c'est l'Espagne. J'ai du mal à comprendre cet effectif qui ne se renouvelle pas.
Ouais.
J'ai même vu, il y a encore du Jesús Navas, il y a encore du Sergio Busquets.
Ouais, mais après il y a Dani Olmo, là,
Carvajal. Oui, mais c'est trop mélangé, je trouve.
Oui, c'est vrai, on a du mal à percevoir une ossature fixe. Moi je trouve que cette équipe, oui effectivement, peut-être que
encore Llorente sur le banc, hein,
ouais.
C'est...
Oh, bah, ça par contre
non mais c'est pour ça que
Fernando Torres
non Torres il a fini,
non il y a Xavi Iniesta aussi qui ont joué.
Non, arrête. Non, c'est pas vrai.
Xavi, il est rentré. Pas de match.
Et puis Raoul aussi, il a plus de 2 secondes à la fin. C'est vrai que, à la différence, peut-être, tu vois, par exemple, bon, je vais parler de la Squadra, qui, depuis que Mancini est arrivé, Mancini travaille sur un socle assez solide d'une 8-10 joueurs qui jouent régulièrement avec lui, et du coup il installe une espèce d'ossature fixe avec peut-être 2 ou 3 changements par match à chaque fois. C'est vrai que l'Espagne, on n'a pas vu ça. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'options pour Luis Enrique, mais il faut quand même au bout d'un moment travailler sur je pense un socle fixe. Mais bon, ils ont gagné, donc on va pas non plus les blâmer.
Oui,
hein,
je suis d'accord avec toi, mais c'est pour une grande nation comme ça, c'est comme un petit peu à l'image de leur championnat. J'ai l'impression que c'est difficile.
C'est vrai.
Désolé, mais
c'est vrai. Puis bon, on sait pas. C'est vrai que ça fait partie des équipes dont on va entre guillemets surveiller, parce que ça reste l'Espagne. Mais j'ai du mal quand même à les voir grands favoris d'une compétition. En tout cas, pas dans l'état actuel des choses.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, quand tu parles d'Espagne, tu peux pas t'empêcher de parler de Ramos, qui est stratosphérique. Ce mec-là, au niveau des statistiques, de son charisme, c'est pas un attaquant. Mais quand tu regardes statistiquement parlant, son entraîneur Luis Enrique a dit ce mec-là est inatteignable. Ses statistiques sont inatteignables, elles sont hors normes. Et je pense que ça le représente bien, parce que si aujourd'hui le Real a pu avoir cette passation de perdre Ronaldo dans l'effectif, c'est en grande partie parce qu'ils ont aussi Ramos, qui à son poste n'a rien à envier à Ronaldo, parce que c'est un mec, c'est un extraterrestre à son poste.
C'est vrai.
Justement, parlons de l'Italie, messieurs. Un match nul contre la Bosnie.
On est obligé ou pas?
Ouais, on est
en plus,
obligé.
Il y a un gros match ce soir contre les Pays-Bas. Ça va
on
être
est, on est obligé. C'est ce que j'allais dire. On a en plus, je trouve, une équipe des Pays-Bas qui me plaît.
Oui, oui.
Ça joue au ballon. Il y a des joueurs qui sont assez plaisants. Un Memphis Depay, mine de rien, qui tire son épingle un petit peu du jeu. Et une Italie qui est en pleine reconstruction. Kevin, je pense que tu peux mieux nous en parler que nous.
Ouais.
Alors, je trouve pas que ça soit si ridicule que ça.
Non, mais pas du tout, parce que ils font une super campagne de qualification pour l'Euro. C'était pas gagné, et moi je voyais pas l'Italie s'en tirer aussi bien. Alors se qualifier, oui, parce que la poule était
après
pas.
Après la Coupe du Monde, en plus, moi ça m'a.
Non, puis la poule était pas très relevée. Par contre, moi si j'analyse un petit peu les dernières campagnes de qualification, même celles qui ont débouché à des belles compétitions comme la Coupe du Monde 2006 ou l'Euro 2012, on n'a jamais été aussi flamboyant dans le jeu. Parce que effectivement, il y a eu beaucoup de buts inscrits. Je crois qu'on est l'équipe, l'une des deux, trois équipes qui ont inscrit le plus de buts dans la campagne de qualification. C'est un très bon signal, parce que l'Italie, c'était souvent une équipe calculatrice, c'est-à-dire que le but, c'était de mettre un but de plus et d'essayer d'en prendre le moins possible. Et donc, il y a eu beaucoup de 2-1, beaucoup de 1-0, beaucoup de 2-0. Mais là, on a eu des vrais cartons. Bon, le match contre la Bosnie, c'était un match, je pense de reprise, c'est pareil.
C'est pas facile à jouer la Bosnie. Hein.
C'est pas facile. Bon, après, ouais. Non, mais c'est, faut pas non plus.
C'est pas les îles Féroé ou...
Non, mais d'accord. D'accord.
Il y a des joueurs professionnels.
Bon, après, pour le contenu du match, on a quand même eu beaucoup d'occases, quand même. Beaucoup d'occases, beaucoup de tirs. On n'a pas forcément concédé grand-chose, mais beaucoup d'occases quand même ratées. Bon, on n'avait pas Immobilier titulaire aussi, qui est quand même le soulier d'or cette année. Voilà, j'attends beaucoup du match contre les Pays-Bas parce que c'est un vrai test contre une équipe qui tourne bien, qui est en confiance. Donc, ce sera, je pense, un très beau match.
Moi, j'y vois un point positif, moyenne d'âge 27,5.
Non, mais par contre, il y a beaucoup de jeunes.
Et ça, et en sachant que dans l'effectif, t'as Bonucci, t'as Acerbi.
Ouais. T'as Chiellini encore qui est là.
Voilà, donc c'est.
Immobilier, il a 30 ans. T'as Insigné qui a 29 ans, je crois aussi.
Donc,
à côté de ça, t'as Barella, t'as Chiesa, t'as Zaniolo, t'as Tonali, t'as Jorginho aussi qui est pas très vieux. T'as Sensi, t'en as pas mal des jeunes quand même.
La particularité de cette équipe d'Italie que je trouve assez exceptionnelle, parce que bon, c'est le cas pour les îles Féroé par exemple. Où les 11 joueurs entre guillemets titulaires de l'équipe jouent dans le pays et jouent pas à l'étranger. L'Italie, ça c'est assez incroyable. Quand tu regardes l'effectif au coup d'envoi, sur les 11 joueurs présents sur le terrain, les 11 évoluent en Serie A.
Mais ça a toujours été.
Et ça, c'est incroyable. C'est une marque de fabrique, comme tu disais, de l'Italie. Ça a été aussi le cas pour l'Espagne à l'époque où il y avait la moitié de l'effectif qui était au Barça, l'autre moitié qui était au Real. Je pense que ça peut vraiment être un point fort sur lequel peut s'appuyer l'Italie. Parce que l'avantage, c'est que les joueurs se connaissent, se côtoient. Alors parfois, sont dans des équipes qui sont rivales. Mais pour autant, tu vois, je pense que ça peut être un vrai plus. Et si ça, l'entraîneur, il arrive à créer une cohésion. Tu sens en tout cas l'amour du pays, l'amour de l'équipe, la passion. On le voit, nous on en a un dans le studio, un Italien. Il y a des moments c'est chiant, mais en tout cas sur une équipe nationale, tu sais que c'est un vrai plus.
Et ça peut être un plus comme ça ne peut ne pas l'être, parce que le championnat italien n'est plus le championnat qu'il était, même si je le défends beaucoup.
Putain, je vais être d'accord avec Kevin.
Non, mais c'est vrai.
Les mots de la bouche.
Non, mais c'est vrai. Ça, c'est pour le coup, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles. Je pense que c'est une raison pour lesquelles aussi l'Italie est tombée bas aussi à un moment, c'est que le championnat italien n'était pas assez relevé. Et puis surtout, il y a eu une période entre quasiment toutes les années 2010 où les clubs avaient du mal à faire confiance quand même aux jeunes. Et notamment, pas forcément les petits clubs, mais même les gros, le Milan, la Juve, l'Inter, c'était des clubs qui avaient du mal à faire jouer les jeunes. Et du coup, les jeunes évoluaient dans des petits clubs et donc du coup avaient du mal aussi des fois à s'exprimer au plus haut niveau. Et je pense que là, c'est en train de changer quand on est en train de voir que Barella joue à l'Inter, que Sensi joue à l'Inter aussi, Immobilier joue à la Lazio, c'est quand même les plus gros clubs italiens.
Ils font partie des effectifs du renouveau italien.
Voilà, et donc je pense que ça peut être un premier bon signal. Je pense pas que ça suffira à être favori de l'Euro ou de la Ligue des Nations, mais de toute façon aujourd'hui c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est essayer d'être de nouveau au premier plan, et je pense qu'on est sur le bon chemin.
Et juste petite question pour finir sur l'Italie, Kevin, l'Italie orphelin de Verratti pour toi?
Ouais,
c'est sûr.
Enfin, oui, c'est sûr.
C'est comme le Paris est orphelin de Verratti quand il joue pas.
Oui, c'est sûr.
Pour moi, ça fait partie de.
Il faisait partie des. En tout cas, il faisait partie des joueurs moteurs de la campagne de qualification à l'Euro, avec ce milieu de terrain qui, pour moi, faut pas le changer. Hein, Jorginho, Barella et Verratti.
Ah, c'est fort.
C'est technique.
Ouais.
Ça, c'est vraiment.
C'est un milieu à l'italienne. Quoi.
C'est un milieu comme on aime. C'est un milieu. Tu vois, j'aurais bien aimé voir Pirlo dans ce milieu-là aussi, parce que c'est des joueurs à l'aise avec le ballon, mais surtout capables de casser les lignes. D'aller très vite en contre-attaque avec une belle passe en profondeur, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est positif. Bon, maintenant, on nous parle beaucoup de la pépite Tonali. On parle aussi de Lorenzo Pellegrini aussi, qui est très bon avec la Roma. C'est des joueurs là aussi qui ont peut-être une chance aussi de briller.
Donc justement, tu parles de briller. Ça va nous permettre de parler de l'équipe de France
qui a cassé
les lignes de mes yeux. c'est un mini coup de gueule. Hein. J'ai trouvé une équipe de France, mais pathétique.
Vole pas mon coup de gueule. Hein.
Mais ça sera justement
la transition
là-dessus.
Messieurs, l'équipe de France avec. Alors, enfin, j'ai envie de dire un changement tactique. D'accord. Enfin, Dédé s'adapte à un effectif, parce que ce milieu, cette défense à trois axiaux, j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Il faut dire quand même, il y a Varane qui peut jouer, ou pas Mécano, Laporte, Langlais. Je pourrais en citer plein.
Bah en fait, ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est un format de jeu qui correspond aujourd'hui aux disponibilités, aux talents qu'on a dans l'équipe de France. Quand tu regardes, c'est tellement.
Mais pour jouer au football,
touriste, ouais.
Mais on n'a pas joué au football. Ouais, moi, c'est ça qui m'inquiète.
Par contre, c'est la petite tristesse. Après, par contre, tu peux mettre en avant une chose, c'est que c'est très très fort derrière. Enfin, quand tu vois la forme,
c'est monstrueux.
Impériale de Kimpembe en même temps, en ce moment, Varane, si t'enlèves encore une fois
Mécano,
son match,
qui est énorme,
qui a cassé l'écran, qui en ce moment en partance pour les plus grands clubs européens. Non, derrière, c'est très 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 costaud.
Mais même
Digne, il y a de la profondeur.
Digne qui a fait une saison exceptionnelle.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est pas du tout à l'image de l'équipe de France parce que je l'ai trouvé très mauvaise.
Le problème c'est que défensivement c'est pas avec ta défense sauf quand t'as Sergio Ramos que t'ouvres le tableau d'affichage. Donc le problème c'est ça, c'est que derrière défensivement, mais tu peux remonter même au début du milieu de terrain hein, quand tu prends Kanté en numéro 6, bon il a fait des récupérations de balles dans la surface adverse, mais Kanté quand tu regardes jusqu'au milieu de terrain, jusqu'à cette place de numéro 6, ils ont été impérial derrière. Lloris, il a fait ce qu'il fallait
même
faire.
Même Rabiot, j'ai trouvé que.
Rabiot, je suis tactiquement, pas d'accord.
Tactiquement, j'ai trouvé intéressant dans le système. Mais attends, je t'ai pas dit qu'il a été bon. Hein.
Non, Rabiot, il est passé à côté de son match. Rabiot, pour moi, son retour en équipe.
Kevin,
de France,
toi, joueur de la Juve, je l'ai pas trouvé dans mon club.
Il a été bien en deçà de son niveau. La seule percée qu'il fait en fin de match, quand il prend l'aile droite qui rentre dans la surface et qui veut faire une passe en retrait pour Giroud, c'est le seul moment où je vois le Rabiot de la Juve.
Le problème de Rabiot, c'est le même problème qu'il avait au début à la Juve, c'est-à-dire qu'il veut pas faire de vagues et il veut faire c'est timide.
Ouais,
il est en mode je vais amorcer mon plan reconquête auprès des supporters. Je vais éviter de faire des conneries déjà.
C'est pour ça que j'ai trouvé placé.
Je vais éviter de faire trop de choses non plus. Donc c'est vrai que c'est pas la Rabiot qu'on aime voir, parce que le Rabiot qu'on aime voir, c'est le Rabiot qui se projette, c'est le Rabiot qui fait des différences dans les 30 derniers mètres par une passe, par un dribble ou par une frappe. Donc ça m'inquiète pas, parce que quand on voit la trajectoire qu'il a à la Juve, on peut se dire que peut-être il va monter en régime avec la confiance aussi. C'est sûr que pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il prend pas la place de Pogba, hein, ça c'est sûr.
Impossible.
Et puis, impossible. En fait, ce qui est triste pour lui, c'est que tu as tellement N'Golo Kanté qui a fait une masterclass lors du match. Il était partout. Il a été noté 8,5, 9 par la plupart des grands joueurs.
Franchement, il a un volume de jeu, c'est un truc de fou.
Ouais, il est trop fort.
Quand tu regardes son placement sur le terrain, le nombre de kilomètres qu'il a couru, en sachant qu'il a pas les plus grandes jambes de l'équipe,
ça c'est sûr.
Tu te dis.
C'est des petits pas.
Non, mais c'est incroyable. Mais c'est marrant ces milieux de terrain aux petits gabarits comme Verratti qui sont partout. Et c'est impressionnant.
Après, c'est un autre profil. Kanté, c'est plus un gratteur de ballon. Verratti, c'est pas un gratteur, c'est un vrai relayeur. C'est-à-dire que Kanté avec un Verratti, par exemple,
ça
c'est génial. Parce que aussi bien Kanté peut gratter, mais peut donner. Mais t'imagines Kanté qui récupère, qui donne la balle à Verratti. Verratti, il peut te faire une passe à 20 mètres qui fait la différence, qui va très vite. C'est ça qu'on aimerait voir.
Bah, on l'a vu au Paris Saint-Germain dans une autre toute proportion gardée, parce que j'aime pas comparer Gueye à Kanté. Quand t'avais vu le match aller contre le Real et Gueye avait fait un match
stratosphérique
et qu'il avait ce relais comme ça avec Verratti, le milieu de terrain c'était magnifique. C'était pour moi le plus beau milieu de terrain que le Paris Saint-Germain avait aligné, même en comptant ce qui s'est passé à Lisbonne sur la fin de saison. C'était gros match, grosse perf. Donc N'Golo Kanté magique, et forcément Rabiot à côté. Rabiot, il a perdu un nombre de ballons incalculable. Il a pourtant un physique, un gabarit qui lui permet logiquement de mettre son corps en opposition et de garder le ballon. Je comprends pas qu'il se fasse bouger autant.
Mais est-ce qu'on n'est pas un peu esclave aussi de la tactique de Deschamps? Moi, je me demande quand est-ce qu'on va arrêter de penser que la seule façon
c'est
de jouer,
la tactique, c'est la philosophie.
La philosophie. Est-ce qu'on va arrêter de penser que le but c'est de récupérer et de balancer en profondeur sur Mbappé, ou de balancer sur Giroud pour qu'après il donne à Mbappé? Enfin, parce que je pense que tu sacrifies aussi pas mal la qualité de tes milieux de terrain quand tu fais ça. Je me demande quand est-ce qu'on va arrêter de faire ça, quoi. Vraiment, parce que ça me saoule.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Que dire de l'offensif? On va d'abord parler. Alors moi déjà, j'ai pas compris ce positionnement. Il fait un 3-5-2 avec vraiment Giroud qui est en demi-pointe, Mbappé, Griezmann qui tourne autour. Pour moi, ça, rien que dans le positionnement, déjà, ça pouvait pas marcher.
Bah, regarde les déplacements de Mbappé sur le match. Il est partout et nulle part à la fois. Dès que Griezmann touche un ballon, il va aller le chercher. Griezmann, il est coincé sur le poteau de corner. Mbappé, il va quand même jouer dans ses pieds. C'est au niveau stratégique, c'était.
Mais c'est ça, en fait. Ils étaient au même endroit.
Ouais, c'était bizarre. C'est bizarre. Donc, sur un match comme celui-ci, en plus. J'ai vu un peu l'après-match, il débriefait, il disait que Giroud c'était un match pour lui en vrai. Parce que les Suédois, gros gabarit, ça joue physique. Je veux dire, c'est pas une faute de casting de mettre Giroud au départ, surtout qu'il finit bien quand même sa saison. Par contre, tu dois lui donner de la profondeur, tu dois le mettre dans les meilleures conditions. Faut mettre un Mbappé vraiment qui colle la ligne de touche, mettre de la vitesse. Et là-dessus, sur un match comme celui-là, sacrifier Griezmann sur le premier match, je pense pas, tu peux pas le faire parce que c'est compliqué. Mais putain, j'aurais aimé avoir deux vraies ailes, surtout qu'on a les joueurs pour le faire, avec des joueurs qui prennent la profondeur sur les côtés et qui vont pouvoir comme ça alimenter. Je pense que Dédé a voulu le faire avec ses latéraux, mais le problème c'est que les latéraux n'ont pas fait ce qu'il fallait pour aller chercher la profondeur, le poteau de corner.
Le 3-5-2, pour l'avoir vu beaucoup pratiqué avec la Juve notamment de Conte, et même avec la Squadra avec Conte, le 3-5-2 ça fonctionne quand tu as trois milieux de terrain avec un 6 et 2-8 au-dessus, et pas avec un 10. Moi j'ai jamais vu 3-5-2 avec un numéro 10. Deschamps nous a inventé un truc là.
Mais, c'est pour ça que je te dis dans le positionnement, voilà. Il était mauvais.
Et donc je pense que c'est pour ça, il prend une place en trop dans ce format-là, en tout cas Griezmann, parce que c'est pas un format pour lui. Si tu veux jouer avec Griezmann, c'est 4-2-3-1, puis c'est tout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que moi je trouve que associer Mbappé et Giroud tous les deux devant, ça fait sens.
Intéressant.
Ça fait sens parce que Giroud il peut peser et Mbappé a plus de latitude. On a très bien vu de toute façon avec le PSG que Mbappé n'était pas capable d'être un vrai attaquant de pointe, que sa place c'est sur un côté ou alors en gravité autour d'un numéro 9 qui prend lui qui occupe les deux centraux. Mais c'est pour ça, pour moi c'est le 3-5-2, oui, ok, pour les trois défenseurs, pour le système défensif,
mais pas comme ça offensivement.
Avec N'Golo Kanté devant, c'est magnifique, mais tu sacrifies Griezmann si tu veux jouer correctement en 3-5-2. Donc après c'est un choix que Deschamps devra faire.
Allez, justement messieurs, j'ai envie de rappuyer sur le carton rouge et allez, c'est le jingle de Pierre, c'est son coup de gueule.
Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas...
Est-ce que Grisou, il t'a tendu la main, mon Pierre? Parce qu'il faut en parler. C'est ton coup de gueule du jour. C'est la situation d'Antoine Griezmann. C'est sa saison. C'est peut-être aussi ses phrases, parce que tu n'avais pas aimé non plus son moyen de com'. Tu nous en avais parlé.
Ouais, alors c'est ce qui est paradoxal, c'est que j'avais fait aussi une intervention sur Antoine Griezmann il y a quelques semaines dans une émission où j'avais dit que j'aimais bien le personnage, j'aimais bien le bonhomme et que dans ce monde de diva, ça faisait du bien d'avoir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a l'air simple, quelqu'un qui a l'air accessible. Je remets pas en cause tout ce que j'ai pu dire par le passé, mais là, il faut juger du factuel. Et puis à un moment, c'est le constat, c'est du sportif. C'est-à-dire qu'il était très bon hier, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Moi, Griezmann, ce qui m'énerve, et en fait, le coup de gueule, j'ai pas envie de le mettre en coup de gueule par rapport au fait qu'en ce moment, il soit en deçà, mais c'est un tout. La fin sur le pénalty, la manière dont il le tire avec cette nonchalance. Mais c'est catastrophique. Moi, je pète un plomb. Quand tu vois Martial qui essaye de revenir en équipe de France, qui s'arrache, qui va chercher le pénalty, qui met de la volonté, putain, si tu lui prends le ballon et que tu tires le pénalty, ou essaye de le mettre au fond, fais quelque chose au moins où tu montres de la volonté. Pour moi, c'est un manque de respect pour l'équipe, c'est un manque de respect pour Martial, et puis c'est aussi un manque de respect pour l'équipe adverse. Il le tire, et quand tu regardes, quand il l'envoie dans le ciel, Mbappé, tu regardes parce qu'il le filme tout de suite, Mbappé, il est en état de choc. Il se dit, waouh, attends, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Grisou là? Et Grisou, il s'en bat les steaks.
Tu penses?
Il s'en bat les steaks. Il se retourne, il a aucune expression sur son visage, il regarde à droite, à gauche.
Je suis pas d'accord.
Sincèrement, ça m'a fait péter.
Alors, la réaction de Grisou est pas rassurante, pas parce qu'il n'a aucune expression, mais parce qu'il a l'expression de quelqu'un qui est perdu. Vraiment. Moi, je le vois comme ça. Quand je l'observe, quand je vois sa tête, je me dis, mais. Il faut pas le faire jouer quand il a cette tête là, Griezmann. D'un côté, t'as envie de le sauver, t'as envie de lui donner la confiance, tu veux le faire jouer.
Il me fait de la peine.
Mais quand tu le vois comme ça, tu te dis, mais. Tu es un zombie en fait. Walking Dead était sur le terrain, quoi.
C'est rigolo parce que la manière dont vous en parlez, on sent que vous êtes un peu dans la logique d'un père à son fils qui a envie de le préserver, qui a envie de le coucouner. Moi, j'ai envie de dire, on a quand même dit que Guardiola c'était la fin de son immunité, qu'il avait fait des fautes, que c'était catastrophique. Toute proportion gardée, encore une fois. Mais quand est-ce que l'immunité de Griezmann va tomber?
Ah, mais moi j'attends que
quand
ça.
Quand est-ce que l'immunité de Griezmann va tomber? Quand est-ce que Griezmann il va commencer sur le banc?
Toi t'en es là.
Ouais, parce
non,
que
non, mais
pense
moi je suis d'accord aussi.
Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Si le fait qu'il rentre, il fait des prestations, il a été noté par l'équipe 3, il a été noté par je sais plus quel encore journal 2.
Non, mais il a été transparent, il a fait un match
transparent.
Il a fait un match digne de ce qu'il fait au Barça. Alors au Barça, ce qui est marrant, c'est que finalement, mais je pense qu'il y a une part de vérité, hein. Je pense qu'on attribue son échec au Barça à cause de Messi. à cause du système qui est fait pour Messi et pas pour lui. Pour le coup, je pense que le système de l'équipe de France, il est fait pour lui et pas pour pas forcément pour les autres. Je pense que Deschamps tactiquement, il travaille aussi pour que lui brille. Et moi, je trouve que qu'il soit mauvais en équipe de France, c'est peut-être un signe effectivement que il y a quelque chose qui va pas. Mais moi, ça fait un moment que je vois Griezmann pas bien, même avant qu'il signe au Barça. Les gens sont pas forcément d'accord, mais moi je suis désolé. Pour moi, Griezmann ne fait pas une grosse Coupe du Monde en 2018.
Non, mais alors attendez, justement,
il met des pénaltys.
J'allais y revenir. Est-ce que finalement Griezmann est un grand joueur?
Non, j'ai jamais dit que c'était un grand joueur.
Ouais, mais tout le monde l'a encensé, a dit que c'était un des top 10.
Ouais, mais les gars, faut se rappeler aussi de ce qu'il fait à l'Atlético.
Mais alors, hormis ça, Pierre. Hormis ces trois saisons à l'Atlético, finalement, c'est pas. Il y a rien de fou.
Il mérite pas un ballon d'or, ça c'est certain.
Ah non.
Aujourd'hui, il mérite par rapport à certaines de ses prestations, pas à l'heure actuelle, mais il y a quelques mois, quelques années, enfin plutôt quelques années maintenant, il était parmi les 10 meilleurs joueurs au monde. Ce qu'il a fait à l'Atlético, ça convenait aussi à sa mentalité, à ce qu'il fait, et il était mis dans les meilleures conditions. Mais pour moi, Griezmann fait partie des très grands joueurs. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, Griezmann, c'est quoi? C'est un 10, c'est un 9, c'est un 9,5,
c'est un ailier,
c'est un quoi?
Pour moi, c'est un 10.
Et je, en fait, c'est là où j'ai du mal un petit peu à savoir qui est Griezmann.
Même pas si lui, il le sait.
C'est...
non, mais c'est vrai, il a tellement été tourné à gauche. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est perdu.
Giroud, il n'y a pas de débat. Et je trouve que très souvent, alors là, on parle de Griezou, mais on pourrait en parler de d'autres joueurs. Il y a beaucoup de joueurs un peu comme Cavani qui ont souffert parce que tu sais pas trop où faut les mettre, tu sais pas comment les mettre réellement dans les meilleures dispositions. Et je ressens ça parfois aussi avec Mbappé. Ou Mbappé, t'essayes de le mettre un peu numéro 9 parce qu'il va très vite et que tu dis qu'avec la profondeur, à l'instar d'un Aubameyang, ça peut faire mal. Mais quand tu le mets en 9, il fait des prestations parfois qui sont insipides. T'arrives pas, il trouve pas les ballons, il touche pas de balles, il vient les chercher au milieu.
Parce qu'il a pas le profil du 9, Mbappé.
Et à la fois, le mettre en ailier, t'as l'impression que parfois tu le gâches parce que tu le mets pas suffisamment en avant et pas suffisamment au cœur du jeu.
Mais si.
Et tu vois, Griezou, j'ai un peu cette impression-là. On essaye un peu de le mettre là, on essaye un peu de le mettre à gauche, un peu à droite, comme un Marquinhos, il est centraux, mais on le met en numéro 6.
Non, ça c'est une connerie ça.
Et puis après on le remet au centre.
Non, c'est une connerie ça.
Et je pense qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui, pour que Griezmann il arrive à redevenir le joueur qu'il était, à le remettre dans les meilleures dispositions, lui donner un poste et arrêter de systématiquement le pousser dans le.
Non, mais le poste il l'a. Alors...
Griezmann c'est pas Messi. Hein.
Non,
Griezmann
mais
c'est pas Messi. Et parfois Dédé, t'as l'impression qu'il veut le faire jouer comme Messi.
A contrario.
Il a pas l'aisance technique, il a pas la rapidité. Aujourd'hui j'ai l'impression. Que Griezmann, il court avec 20 kilos en trop.
Non, mais il est pas gros.
Et pourtant, il est affûté.
Il est pas gros.
Tu le sens pas sur le terrain.
Non, mais c'est qui a sur Facebook, quelle page sur Facebook a mis une photo de Griezmann à l'Euro 2016 et qui dit ce Griezmann-là nous manque? Je sais plus, il y a une page, je sais pas si c'est le meilleur du foot ou machin.
Ami,
qu'est-ce qui nous manque le Griezmann de l'Euro?
Il y a 4 ans.
Et il jouait ailier à ce poste-là. C'est marrant, hein, à l'époque de l'Euro, c'est à l'époque où il explose un petit peu.
Alors moi, je trouve que c'est un ailier.
Mais il a le profil aussi pour jouer ailier, mais.
Attention, ça dépend du système.
Ça dépend du système. Mais à la fois, Simeone en a fait un 10 intéressant aussi. Moi, je trouve pas qu'il soit inintéressant et inefficace en numéro 10. Moi, Griezmann, j'ai toujours eu du mal, même psychologiquement, en dehors des qualités footballistiques. Psychologiquement, j'ai toujours un problème.
Il est faible.
Il change de coupe toutes les deux semaines et il passe toutes les saisons. Il passe d'une coupe à une autre. J'ai l'impression qu'à la fois, il a voulu être à la fois Beckham et à la fois quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il n'a pas de style prédéfini.
Il n'a pas d'identité.
Il met pas de personnalité dans son jeu non plus, tu vois. Tu dis pas joue comme tu diras jamais joue comme Griezmann quoi.
Non.
Tu vois. Alors qu'il y avait joue comme Beckham, il y avait joue comme Messi, joue comme Ronaldo, joue comme
même comme Giroud des fois.
Voilà, tu peux te dire demain tu joues au foot avec ton pote, il va te dire bah t'as joué comme Giroud, t'as pesé sur la défense, t'as été efficace, t'as eu 2 occasions, t'en as mis une au fond. Mais il y a pas de style Griezmann. Et je pense que c'est pour ça que ça sera jamais un très grand joueur. Il aura un très beau palmarès, ça c'est sûr. Comme beaucoup de joueurs aussi. Il aura marqué aussi son équipe de l'Atlético. Il aura fait partie quand même d'une histoire avec l'équipe de France qui n'est pas négligeable. Mais c'est dommage parce que, tu vois, c'est ce qui lui manque peut-être pour faire partie de ces pour manger à la table, comme il disait si bien à une période, des grands joueurs, des légendes comme Messi ou Ronaldo ou même d'autres avant.
Il peut être bon partout, mais il est excellent nulle part en fait. Et aujourd'hui, c'est le constat que j'en fais. Je vais faire un parallèle.
Très très bon ce que tu dis. Non mais très, franchement,
on arrête l'émission.
Très 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 bon. Il est bon. Excellent nulle part. C'est pas faux.
Tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué très souvent dans le foot. Moi, j'aime bien faire le parallèle. Alors, je sais pas si vous jouez un peu à la PlayStation. Je pense que beaucoup de nos auditeurs passionnés le font, eux. Quand tu joues à FIFA, très souvent, je trouve que c'est un beau reflet de ce qui se passe sur les terrains de football. Et quand tu regardes, quand tu joues en Ultimate Team, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu es dans le mode carrière avec ton équipe, tu choisis tes joueurs, tu fais l'identité que tu veux et tu essayes de monter en Division 1. Bah, je vois très très rarement Griezmann, même en 2018, dans les équipes type.
C'est normal parce que ce n'est pas un profil qui intéresse les joueurs de FIFA. Parce qu'il n'est pas assez rapide.
Mais voilà, il n'est pas rapide, il n'a pas une grosse frappe de balle. Il a une bonne qualité de passe, mais si tu joues juste sur la qualité de passe, tu as des joueurs qui sont meilleurs que lui. Quand tu le prends, si tu le mets sur une aile, tu t'handicapes parce qu'il n'a pas la profondeur, il n'a pas la course, comme tu disais. Si tu le mets en neuf, physiquement, il n'arrive pas à faire face aux défenseurs centraux, donc tu n'arrives pas à le faire jouer. Si tu le mets au milieu de terrain, il n'est pas bon en défense, en tout cas pas suffisamment, donc tu sais que tu vas prendre des contre-attaques et que tu vas prendre des buts. Et aujourd'hui, je trouve que ça illustre tellement la situation de Grisou, comme je disais. Où il est bon, mais il est excellent nulle part.
C'était notre page.
Bravo.
EA Sporting. mais c'est vrai. Moi, alors maintenant, pour clore sur le sujet, messieurs, que doit faire Grisou? Parce qu'à un moment donné, il a 28 ans, c'est pas non plus...
29,
et il a 29 ans, c'est un jeune joueur qui a encore 3-4 ans de carrière au plus haut niveau.
Et qui, logiquement, est minimum. Censé être...
S'il continue comme ça, moi, je lui donne même pas 2 ans.
Voilà, à mon avis, il doit réagir très très vite. Pour moi, le Barcelone n'est pas fait pour lui tant qu'à Messi. C'est pas possible.
C'est pas possible.
Ça pourra pas marcher. Pour moi, ça doit être un départ.
Bah écoute, oui, il faudrait qu'il parte. C'est
je
sûr.
Je veux Griezmann à Liverpool. Je l'ai dit déjà avant la fin
Alors,
de la saison.
Je suis un peu comme toi. Pour moi, c'est Griezmann. Le seul grand club où il peut aller.
C'est vrai.
Parce que c'est le seul grand club qui joue collectif.
C'est vrai.
Qui joue pas pour leur individualité.
Et on lui demandera pas d'être une star. Le problème, c'est que Griezmann, il est arrivé en mode star au Barça, star parmi les stars, et aujourd'hui, on voit que ça lui va pas.
Mais c'est de la faute du Barça aussi.
On
le paye 120 millions, on l'accueille pas dans les vestiaires.
On l'a pas obligé, on l'a pas kidnappé.
Ouais, c'est lui qui l'a choisi, le Barça.
Il l'a aussi choisi. Il a fait aussi des pieds et des mains pour le faire. Il a voulu le faire avec la forme en restant une année de plus, mais ça faisait déjà 2 ans que Griezmann, il était déjà dans sa tête au Barça. Et aujourd'hui, il faut qu'il ait la lucidité, surtout comme vous le disiez avec le fait que Messi reste. Il faut qu'il parte. Et le seul club dans lequel aujourd'hui il peut aller s'épanouir et retrouver sa place, pour moi, c'est pas au Paris Saint-Germain comme on a pu le dire ces dernières années. Après la Coupe du Monde, il faut qu'il aille au Paris Saint-Germain. Non. Il faut qu'il aille à Liverpool. À Liverpool, on lui demandera pas d'être une star. À Liverpool, il peut jouer, bien jouer, se fondre dans le collectif et rayonner par le collectif. Et Griezmann, il a besoin de ça.
Et tu le mets où à Liverpool ?
Et eh bien ça revient à la question qu'on était en train de se poser. C'est
parce que si les trois devant restent...
Salé, Firmino et Mo Salah, tu le mets derrière ?
Ouais.
Ouais, je le mettrais dans le milieu de terrain. Le mettrais dans le milieu de terrain avec,
à pas
Fabinho
la place
derrière,
de hein.
Avec Fabinho derrière et avec Griezmann qui est en relais, en plaque tournante. Et
pour Marc, moi, il travaille défensivement, ça peut ?
Je le verrais, si je devais
pourquoi
le voir quelque part dans le collectif, je le mettrais au milieu de
pourquoi
terrain.
Pourquoi pas.
Ça peut être intéressant. Messieurs, on va changer de coup de gueule puisque ça c'était suite Pierre. On va passer au mien avec mon petit jingle que j'adore.
Il m'a dit que t'as rien contre un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros gros chaud de la bite.
Oh, je suis chaud, là, je peux
même faire bouffer ton polochon.
Justement, en parlant de polochon, j'ai envie de faire bouffer le polochon à ces Parisiens.
C'est toi mon fils.
Non, franchement, je suis vraiment...
Vas-y, coupe.
Je suis vraiment remonté, messieurs. Pourquoi ? La simple et bonne raison, je vais vous expliquer. On parle du Paris Saint-Germain, ça fait 48 heures qu'ils sont sous le feu des projecteurs, puisqu'ils ont, leurs plus gros stars qui sont touchés par le Covid, et ce sont des stars qui sont partis en vacances du côté d'Ibiza. La seule bonne nouvelle que je vois dans cette affaire, c'est la Ligue qui a assoupli un petit peu les règles, et les matchs vont pouvoir se jouer. On va rappeler le contexte, le PSG qui demande à décaler le premier match de championnat face au RC Lens, justement parce qu'ils ont joué la finale, qu'il faut se reposer, qu'il faut récupérer. Et on voit Keylor Navas, Neymar,
Di Maria,
Paredes, aller faire la fête à Ibiza. Alors attention, je suis très remonté, je vous expliquer pourquoi. C'est parce que Leonardo, quelques journalistes, non, ils sont partis en famille, ils ont été ensemble, il n'y avait pas de soucis, c'était contrôlé. Non, excusez-moi, on les a vus sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de faire la fête à Ibiza, avec plein de monde derrière, en train de boire des verres, en train de s'éclater. Excusez-moi, pour moi, c'est une faute professionnelle. D'accord, je vais vous donner
complètement,
mon...
non mais complètement.
Pour moi,
mais
c'est
tu peux pas avoir une faute professionnelle alors que t'es en vacances. Enfin, bon,
mais voilà. Attends, Pierre, je vais t'expliquer. Ils ont des millions, ces gars-là. Des millions. Ils peuvent louer une île où il n'y a personne dessus. Non mais c'est vrai, ils ont des oui, millions, ils peuvent louer une île où il n'y a
mais
personne
ils ont des
dessus.
Millions, mais ils sont jeunes. C'est
mais non, bah non, bah t'es professionnel.
Des femmes,
mais t'es professionnel. Tu penses que Macron, il va aller danser au phare de Brégançon là-bas, il va faire venir Rihanna, ils vont faire une fête.
Non,
mais
non,
il va pas le faire.
C'est irresponsable.
C'est irresponsable.
Non mais tu. Non mais en plus, non mais attends. Bizarre, en plus, ils partent pas dans un endroit où il y a très peu de cas de Covid.
Mais voilà,
ils partent dans le cluster presque
c'est ça.
Du monde, quoi. Non, mais
moi, excuse-moi, c'est une faute professionnelle et je trouve que pour l'image du Paris Saint-Germain, c'est déplorable. Excuse-moi, alors soi-disant, les joueurs du Bayern étaient aussi à Ibiza, j'en ai pas vu un, d'accord. Et tout le monde le dit, j'en ai pas vu un. Il n'y a pas un joueur cette année qui a fait des phrases et qu'on a vu, hormis Benoît Paire, mais bon, c'est un abruti au tennis, hein, le grand sportif.
Non, mais c'est vrai.
Hormis Benoît Paire, qui est un abruti, qui est sur les plages de partout, je n'ai pas vu quelqu'un de professionnel aller faire la fête, aller palucher comme l'ont fait Neymar, comme l'ont fait Paredes. Excusez-moi, pour moi, le Paris Saint-Germain doit réagir, doit sanctionner. Parce que c'est.
Non.
Mais si.
Mais si.
Mais si.
Les gars,
non mais attends. Après le PSG
loin.
L'a bien cherché non aussi. Hein. Mais déjà pourquoi tu joues pas ce match contre Lens?
Mais bien sûr.
Hein? Pourquoi?
Mais ils ont un effectif de 24.
Les autres clubs ils ont fait quoi?
Les gars, je m'étais préparé à tout sauf ça. Non mais là où je vous rejoins et il fallait que la Ligue assouplisse les règles. Du moment où tu as 20 joueurs qui peuvent jouer, que tu es Neymar ou pas Neymar, tu dois jouer. Et
mais
là, le Paris Saint-Germain doit assumer le fait d'avoir donné des congés, d'avoir laissé quartier libre à ses joueurs. Il doit assumer ça, mais il ne doit pas aller jusqu'à la sanction. Que tu dois jouer avec 20 joueurs, que tu dois jouer sans Mbappé, sans Neymar, sans peu importe, et que tu te prends 3-0 sur le premier et que tu commences en te tirant une balle dans le pied, ça, c'est le problème du Paris Saint-Germain. Et là, il l'assume. Mais tu ne peux pas les sanctionner.
Non,
mais en droit français, tu ne peux pas interdire
non. Pour moi, le PSG, les dirigeants du PSG, Leonardo
fautifs.
En tête, et sont aussi fautifs que les joueurs parce que tu peux très bien dire, ok, les enfants, on vous donne des congés. Par contre, vous n'avez pas le droit d'aller là.
Mais
ou
tu
alors,
peux pas,
mais si.
Mais on est où là,
mais attends,
les gars, on n'est pas aux Émirats arabes là.
Bah, t'as vu combien ils leur donnent de salaire
non,
à un moment
attends.
Donné avec les risques sanitaires, les
bah, regarde,
enjeux financiers qu'il y a.
La preuve, t'imagines les risques que tu fais prendre non seulement à tes joueurs, parce que bon, ça reste quand même le coronavirus. Hein, on parle pas d'un truc anodin. Non seulement tu fais prendre des risques à des joueurs d'infection, mais tu prends le risque aussi de contaminer les salariés du club, leur famille et de tout ça. Autour quoi. Alors déjà qu'on s'est suffisamment plaint, le PSG en tête, et ils ont eu raison de pas avoir réouvert la Ligue 1 à la sortie du confinement, derrière tu fais ça quoi. Enfin je veux dire c'est n'importe quoi,
mais
parce que tu prends le risque d'arrêter la Ligue 1
dès
le mois de septembre.
Sanctions, là on parle d'humains,
mais
que
Pierre,
quand ils reviennent d'Ibiza ils se fassent tester et que derrière il y a un moment chacun a son point de vue sur tout ça en disant bon les mecs ils ont pas été très consciencieux, c'est un fait, mais on va pas parler de sanctions.
Bah, dans ces cas, moi je te dis arrêtez, ils sont fonctionner tout seul. Moi, j'aurais été comme Kevin. D'accord, voilà, vous voulez partir en vacances, pas de soucis, vous partez là-bas, c'est un délai de 14 jours, vous jouez pas pendant 14 jours. C'est pas compliqué,
ouais.
Ça a pas été clair, ça a été mal géré par le Paris Saint-Germain. Ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied,
non, mais
excuse-moi,
c'est vrai.
Parce qu'avec qui ils vont jouer? On a beau dire qu'ils ont un gros effectif.
Par contre, maintenant, il n'y a plus de cadeaux. Hein. J'espère qu'ils vont jouer là, le prochain match.
Ah
même
oui,
s'ils
ah
font
non,
jouer,
tout de suite.
Même s'ils font jouer les U19 ou les U17,
ils
m'en fous, moi.
Ils se démerdent. Moi, je te dis franchement.
Non, mais franchement.
Non, mais là, je suis d'accord. Il ne faut plus qu'il y ait de report. Là-dessus, c'est pour moi, le premier report, il était légitime par rapport au fait que les joueurs, pour qu'ils soient dans de bonnes conditions physiques, on pense à l'intégrité des joueurs. Je ne parle pas du Paris Saint-Germain. Tu joues une finale de Ligue des Champions. Tu reviens, s'il te plaît, laisse-nous une semaine, le temps de faire reposer un peu les corps. De manière à pouvoir repartir dans de bonnes dispositions. Le premier report pour moi il est sain, il est normal, il est raisonnable. C'est pas parce que c'est le Paris Saint-Germain ou une autre, Bordeaux, Rennes seraient allés en finale de la Ligue des Champions, je leur souhaite, ça aurait été pareil, j'aurais dit exactement la même chose. Par contre là il n'y a plus de report, là je suis d'accord avec vous, la sanction elle doit être sportive mais pas contractuelle. La sanction sportive ce sera tu te prives de tes meilleurs joueurs pour faire ton entrée en lice en Ligue 1. Point barre.
Je suis un peu d'accord avec toi, Pierre, dans le sens où de toute façon le PSG a autorisé ça. Maintenant, c'est une conséquence de leurs décisions, de leurs actes. Donc,
il y a peut-être
pas.
Ce serait
ridicule de dire aux joueurs du PSG, on vous sanctionne parce que vous êtes allé à Ibiza. Moi, je suis Neymar ou peu importe. Je dis mais tu nous as laissé aller. On t'avait dit qu'on y allait. Donc, fallait nous interdire à ce compte-là. Mais tu nous donnes la bénédiction pour y aller. Tu nous donnes aucune recommandation et derrière, après, tu nous sanctionnes. Non. Donc, c'est une erreur du PSG.
Après, c'est
maintenant,
des grands garçons aussi.
Maintenant, il faut y aller. bien sûr, mais
attends, mais tu réserves tes vacances à Antalya, gros. Ton patron, il t'appelle, il dit je veux pas que t'ailles en Turquie, tu lui dis quoi?
Alors, attends, Pierre, est-ce que t'as passé des vacances normales cet été?
Non, mais c'est vrai.
Moi, j'ai pas passé des vacances normales.
Moi, je devais sortir de la France, hein, je devais aller voir ma famille en Sicile. Ben, on n'y est pas allé. Pourtant, le Sicile, il y avait pas beaucoup de cas. Il y a eu que 1000 cas, je crois, dans toute l'île. Donc, c'est pas énorme, hein. Par mesure de sécurité, on s'est dit bah non, on va rester en France, on va éviter de sortir, et puis voilà quoi. Donc ça s'appelle de la responsabilité. Et quand tu es en plus un joueur de foot
professionnel,
riche, tu véhicules aussi une image que tu dois renvoyer aussi aux gens. Et ben bah, il faut bien te tenir parce qu'il y a des gens qui te regardent, il y a des enfants qui te regardent. Moi je trouve ça normal de bien se comporter en société, même quand tu es joueur de foot, même si tu soi-disant t'as aucun compte à rendre à personne.
Je pars du principe que si le match se joue entre le Paris Saint-Germain et Lens et que le Paris Saint-Germain ne demande pas officiellement de report, pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci.
Alors, vous avez vu l'intervention de Leonardo hier?
Franchement, sincèrement, hier, je n'ai pas pu.
Honnêtement, je l'ai trouvé très bon. À aucun moment, il a demandé un report. D'accord, je l'ai senti pour une fois en se disant, je crois qu'on a compris qu'on a déconné, on ne va pas encore abuser. Mm-hmm. Je l'ai senti vraiment comme ça. Intervention très intelligente qui a un peu calmé mes ardeurs parce qu'il a reconnu, il n'a pas dit que c'était une faute professionnelle, hein, mais il a dit que ça faisait partie du jeu, que les joueurs avaient besoin de décompresser, etc. Voilà, maintenant, moi, je pense qu'il y a vraiment une autre manière de décompresser. Ils ont les moyens pour faire autre chose, pour le faire différemment. Ils ne l'ont pas fait pour moi de la bonne manière, tant d'un aspect professionnel au niveau humain et joueur de football, et tant le Paris Saint-Germain en tant qu'institution et administration footballistique. Voilà, c'est là où moi je tire la sonnette d'alarme, c'est juste ça. Et pourquoi? Parce que ça fait plusieurs fois que le Paris Saint-Germain est trop gentil pour moi avec ses joueurs, comme ils l'ont été à Neymar avec un moment, et qu'à un moment donné, si on veut avoir des ambitions, si on veut avoir des choses claires et nettes, il faut poser le point sur la table, il faut donner un cadre, et des fois j'ai l'impression que c'est le problème du Paris Saint-Germain, il n'y a pas un cadre qui est posé.
Oui, mais Leonardo, il est revenu là pour ça. D'ailleurs, j'ai pas écouté sincèrement. Mais
regarde, franchement, il a été très bon.
J'ai juste vu que Daniel Riolo avait dit que le Paris Saint-Germain devait absolument lui donner un contrat à vie tellement que voilà, il pouvait être bon. Donc il doit vraiment être bon. Faut que je le regarde. Ouais. Mais oui, je pense que Leonardo est là pour ça. Moi, ce que je regarde un peu en ce moment, parce que tu parlais du Paris Saint-Germain, ce serait une légère aparté, c'est la gestion du cas Tuchel, là, de plus en plus. Je sais plus, il y en a un de vous deux qui avait dit si Tuchel est là au premier match, ce sera déjà extraordinaire. Et ben, sur le moment, j'ai rigolé et je me dis que si ça continue comme ça, en tout cas, je pense que ça pourrait presque être un mal pour un bien, parce que si les tensions sont telles que c'est donné aujourd'hui dans la presse, ça sent pas forcément très très bon au moment des grandes échéances européennes pour cette année.
Ouais, mais je pense qu'on pourra y revenir. Hein. Pour moi, ça n'a jamais été l'homme de la situation pour gagner la Ligue des Champions.
C'est vrai.
Et dans notre duel à distance, par contre, hein, Leonardo face à Juninho, le fossé continue de se creuser.
Ah bah alors, non, mais pourtant je suis pour Lyon et pour moi le fossé, oui, il continue de se creuser. Mais bon, c'est deux personnes qui disent des choses quand même, ils sont honnêtes.
Non, bah, moi, par contre, il y a un fossé entre les deux, mais juste parce qu'il y en a un qui manipule mieux la com que l'autre. Hein, mais en vrai, au niveau compétences, peut-être que Leonardo est peut-être trop au-dessus, mais il est juste un meilleur communicant. Mais là où j'ai apprécié par contre Juninho, c'est que sur la sortie de Reine Adélaïde, d'ailleurs j'aurais pu faire mon coup de gueule là-dessus aussi, hein, mais bon, non. Mais il réagit quand même assez vite. Où il prend la parole tout de suite après les déclarations. Et derrière, il dit écoute, si tu veux discuter, au lieu de le faire à l'équipe ou à Eurosport, où tu veux, tu viens dans mon bureau, on discute. Donc,
c'est vrai qu'il a été bon.
Donc, au moins, il a réagi tout de suite. Et c'est ce qu'on lui attendait, parce que pendant un moment, c'était Fantomas, le mec, on ne sait pas où il était.
Là, on le voit plus.
Là, on le voit plus. Il commence un petit peu à prendre les choses en main. On verra
c'est
après.
C'est un novice.
Comment il gère la chose. Mais j'ai bien aimé le fait qu'on l'entende tout de suite après.
Bon, ça, c'est une bonne chose. Allez, on va passer à ton coup de gueule, mon Kevin, parce que celui-là, pour moi, c'est le plus important.
Oh,
ça fait
carrément
une semaine
une grosse
qu'on
passion,
en parle.
Là.
Ah
ouais, moi je suis tendu là.
Je peux vous dire qu'il est tendu.
Mets-toi debout.
Là, je peux vous dire qu'il est tendu, mon Kevin, parce qu'on va parler. Tu comprends? Laisse-le venir vers toi. Laisse-le. Kevin, ton coup de gueule, c'est Léo Messi, c'est la gestion du cas, c'est peut-être aussi sa personne qui t'a dérangé. Dis-nous tout.
C'est Messi, ce qui s'est passé avec Messi, pour moi, c'est le... Comment le dire, c'est un peu compliqué de démarrer là. Pour moi, c'est... Mais où sont passés, nos grands clubs? Où sont passés l'aura de nos grands clubs? C'est quand je vois ça... Je me dis, mais le Barça, c'est quoi? C'est Nîmes? Avec aucune critique contre Nîmes, mais je pourrais dire n'importe qui. C'est Sassuolo, le Barça? Ben non, c'est le grand Barça. C'est l'un des clubs les plus puissants du monde, réduit à une serpillière par Messi. Voilà, Messi qui s'est bien torché sur le Barça.
Je vais devoir quitter le studio.
Non, c'est n'importe quoi. Le Barça, pour moi, c'est un des plus grands clubs du monde.
Hein, il les respecte pas.
Non, mais il respecte rien du tout. On oublie. Alors moi, ce qui me désole encore plus, et franchement, quand je vois des trucs comme ça, je vous le jure, je vous aime beaucoup, mais j'ai envie de tout arrêter, les émissions, le foot, j'ai plus envie de regarder, j'ai envie d'aller sur le terrain le dimanche, regarder des clubs amateurs, ça me fera... Des fois, ça me fait plus bander, je vous le dis. Hein. Moi, quand je vois ça, quand je vois des joueurs se comporter comme ça, et quand je vois les réactions aussi que ça entraîne chez certains supporters ou amoureux du foot, soi-disant amoureux du foot, mais ça me désole, quoi. Les gens qui disent, bah, mais si, il a raison. Mais non, mais si, il a pas raison. Mais si, il doit respecter d'abord son club, d'accord? Le premier respect, c'est déjà de pas faire un fax. Parce que déjà, qui fait des fax aujourd'hui? Deuxièmement, quand t'as un problème, tu discutes avec les gens. D'accord. Et si t'es pas content, bah au lieu de faire un fax, tu vas dire aux gens directement et à tout le club, je veux plus rester avec vous, je m'en vais. D'accord. Mais on oublie aussi, et les gens oublient, que le Barça a tout donné à Messi, jusqu'aux clés du camion. D'accord. Ils lui ont tout donné, les pleins pouvoirs, et ils l'ont même. Mais si on oublie aussi, ça trop souvent. Mais quand Messi arrive au Barça très jeune, le Barça prend soin de lui aussi, notamment par rapport à ses problèmes de croissance, etc. Ils investissent quand même beaucoup sur le joueur. Alors oui, Messi leur a bien rendu en étant performant sur le terrain, etc., etc. Mais je suis désolé, tu dois aussi un respect éternel envers ton club, parce que sauf erreur de ma part, vous m'arrêtez aussi, hein, y aura bien un moment où le Barça existera et Messi sera retraité du football. D'accord? Donc le Barça devra continuer à exister après Messi. Et le Barça n'existe pas à travers Messi. Moi, j'ai l'impression que depuis des années, il y a des clubs qui sont devenus plus petits que leurs joueurs. Et c'est aussi pour ça que l'argent, quelque part, a tué pas mal de valeurs dans le football, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus grands que les clubs. Moi, je cite souvent Ferguson, parce que j'adore la déclaration qu'il a faite quand Ronaldo s'en va au Real. On lui demande, après que le transfert ait été officialisé, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de ce transfert-là, et s'il était d'accord pour faire partir Ronaldo. Ferguson, il répond, vous savez, quand un joueur veut devenir plus gros que le club, c'est peut-être qu'il est temps qu'il s'en aille. Voilà, magnifique. Voilà, bravo Ferguson, qui a très bien résumé aujourd'hui comment les joueurs devraient se comporter, parce que sauf erreur de ma part, les joueurs durent moins longtemps que les clubs. Il y a des clubs qui ont 100 ans, 120 ans, 130 ans, 140 ans. C'est des clubs qui seront toujours là après que les plus grands joueurs passera sur leur pelouse. Moi, je ne comprends pas pourquoi Messi a piétiné le Barça. Il est pas d'accord avec Bartomeu.
C'est là où la distinction est. C'est que pour moi, il a pas craché sur le Barça, il a craché sur Bartomeu.
Mais non, mais parce que c'est tout le Barça sur lequel tu craches en faisant comme ça.
Pour moi, il crache ni sur l'un ni sur l'autre. Ah ouais. Pour moi, aujourd'hui, le gros problème qu'il y a, et je rejoins par contre sur un point Kevin, c'est le fait que le marketing, que l'argent ait pris le pas sur le football et sur le sport. On en avait déjà parlé aujourd'hui. Le problème, il est qu'aujourd'hui, un club sans figure de proue, comme le Paris Saint-Germain avec Neymar, comme le Barça avec Messi, comme le Real avec Sergio Ramos maintenant. Aujourd'hui, les clubs ont conscience, mais ça, c'est du marketing, les gars. Les clubs, aujourd'hui, ont conscience que sans grands joueurs, sans figure de proue, ils perdent des millions. C'est une catastrophe économique. Et aujourd'hui, le Barça ne résonne plus en club sportif, ne résonne plus, comme tu disais, en club avec un palmarès, avec une histoire. Le Barça, aujourd'hui, résonne. Il se comporte comme une entreprise. Point barre. Et c'est catastrophique, c'est terrible. Et ça va à l'encontre aujourd'hui, ok, des règles du sport, des règles de tout. Moi, là où je ne vous rejoins pas, les gars, c'est que le Barça, et ça a été validé par plein de personnes qui sont proches du dossier, proches du Barça, par des actionnaires, le Barça avait donné à Messi son accord verbal en début d'année en lui disant qu'en fin d'année, s'il souhaitait partir, il ne lui fermerait pas la porte. Le Barça, aujourd'hui, n'a pas respecté ce qu'il a dit, car Messi l'a verbalisé.
C'est ce qu'a dit Messi,
d'ailleurs. Il souhaite quitter le FC Barcelone. Et là, le problème est que le FC Barcelone n'a pas respecté sa promesse et n'a pas laissé Messi partir. Donc, Messi, je veux bien lui tirer dessus, mais là, excuse-moi, quand un moment sous un privé, moi, vous savez, je suis de signe astrologique balance, hein, je suis un abruti, je déteste l'injustice.
Non, parce que ma fille aussi.
Oui, mais les balances sont des cons parce qu'on déteste l'injustice.
Moi, je
peux me prendre la tête avec tout le monde. Du moment où je trouve que c'est injuste, c'est injuste. Que tu t'appelles Messi, que tu t'appelles Monsieur Sarkozy, je m'en pète un rein. Du moment où tu es injuste, c'est injuste. Et là, Messi, pour moi, il est victime d'une injustice. Et le problème aujourd'hui, c'est que le Barça, il le retient en allant jusqu'à l'encontre de sa volonté et de leurs paroles. Et là, le problème, il est là aujourd'hui. Le problème, il est que le Barça n'a pas réussi à remplacer Messi. Ils voulaient le remplacer. Ils ont essayé de le remplacer avec Coutinho, avec Griezmann. Mais le problème aujourd'hui, c'est que personne encore aujourd'hui, d'un point de vue marketing, d'un point de vue aura, personne n'arrive à la cheville.
Mais personne n'arrivera à la cheville de Messi. Il faut que le Barça fasse le deuil de Messi.
Oui, le Barça.
Oui, le Barça devra faire le deuil de Messi.
Pour moi,
parce que de toute façon, il y a un moment où tu auras pas Messi. Et des joueurs comme Messi, ce serait merveilleux, hein, mais tu n'en croises pas
oui,
tous les ans ou tous les 5 ans.
Faire revenir Neymar, parce qu'ils savaient que Messi, de toute façon, serait amené à partir, et ils avaient besoin pour leur projet d'avoir une figure de proue. Rappelle-toi l'année où Zlatan part du Paris Saint-Germain, c'est une catastrophe médiatique, économique. Quand ils font leur tournée d'avant-saison, qu'ils partent aux États-Unis à Los Angeles, ils misent tout sur Zlatan Ibrahimovic. Tout, comme le Barça le fait avec Messi. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Pour porter ton club, tu as besoin d'un joueur, tu as besoin d'une icône. Et si le Barça, dans la tempête dans laquelle il se trouve aujourd'hui, sépare de Messi, c'est une catastrophe.
Moi, je trouve que... Mais pourquoi Messi part ? Alors, peut-être qu'il y a une raison aussi. Hein, peut-être
il a dit ça fait 5 ans que c'est le bordel au Barça. Il dit ça fait 5 ans que toutes les décisions sont à côté.
Mais attends, mais c'est lui qui les prend aussi, les décisions. C'est lui presque qui recrute les joueurs et qui décide qui doit jouer, qui doit pas jouer. Il fait jouer ses popotes et ses copains là, sur le terrain.
Ouais, mais tu vois, moi, je pense qu'il veut partir. Et c'est pas pour une question financière, parce que tout le monde l'accable là-dessus. Il est plein, c'est le plus gros joueur. Il aurait pu partir.
Non, mais c'est pas une question financière. C'est pas ce que je lui
reproche. Il a même dit qu'il partait pour le club.
Et pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, il part dans l'intérêt du club parce qu'il sent qu'il plus rien à faire, qu'il faut tourner une nouvelle page et qu'il ne se voit pas dans cette nouvelle page. Exactement. Et justement, je trouve sa réaction très intelligente en disant « Basta, on parle trop, je reste au Barça, c'est trop le bordel, on voit bien que je ne peux pas partir, c'est trop cher, il y a trop... » Mais pour moi, si on doit tenir un coup de gueule, c'est au Barcelone. C'est au FC Barcelone, parce que c'est des abrutis.
Non, mais les deux sont des abrutis parce que tout le monde a sa part de responsabilité. Mais je suis désolé. Sauf erreur de ma part, ce ne sont pas les dirigeants qui jouaient contre le Bayern, contre Liverpool ou contre la Roma. Mais il est pas tout seul à pas être bon. Mais lui, en tant que capitaine, en tant que meilleur joueur presque de l'histoire, il doit aussi montrer autre chose. C'est pas je suis pas sûr que ce soit Bartomeu qui ait dit bon, écoutez, si on prend une branlée, vous êtes gentil, vous marchez, puis c'est pas grave si on en prend 8.
Tu penses vraiment qu'il a quelque chose à prouver encore.
Mais oui.
Il dit qu'il a besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau départ.
Moi, je pense que c'est
challenge.
Ça sa preuve.
Aujourd'hui, il a besoin d'un nouveau challenge. Il le dit clairement qu'il n'est plus animé au Barça, qu'il a l'impression d'avoir fait son temps et que le Barça, comme lui, ont besoin d'un nouveau challenge. Il le verbalise. Il ne dit pas que pour autant ça, comme tu dis, tu as raison, il en parle dans son interview du 8-2 qu'il prend contre le Bayern. Il ne dit pas que pour autant il se dédouane, qu'il était sur le terrain et que c'est en grande partie de sa faute. Mais il dit que pour autant, il ne voit pas où est-ce qu'il aurait pu aller chercher l'énergie de faire différemment. Il est à bout de souffle au Barça. Et le Barça, ils sont mauvais.
Mais je suis désolé.
Professionnels.
Je suis désolé. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il réagit comme ça. Si le Barça, c'est son club de sa vie, le club de tout, je suis désolé, toi le premier, tu aides à la reconstruction de ce club. Tu peux pas.
Mais Kevin, combien tu as de mariages de gens qui se jurent l'amour éternel pour la vie et qui se séparent 3 ans après? Les phrases d'hier, les vérités d'hier sont pas celles de demain.
Bah ouais, mais moi,
aujourd'hui, la réalité, c'est que il a déjà non mais c'est vrai, il a rendu déjà des services, il a fait des matchs stratosphériques à Wembley, c'est à lui tout seul qui qualifie, qui fait gagner la Ligue des champion à Barça. Il a rien à prouver, il a tout donné aujourd'hui.
Pour
au Barça.
Moi, il y a encore un problème.
Tu dois
excusez-moi,
respecter la
on parle de marketing, on parle de société. Et il y a un gros problème qu'aujourd'hui, on oublie dans le football et qui pour moi est catastrophique, c'est la base de tout et même dans la vie, dans l'amour et tout, c'est la communication. J'ai l'impression que plus personne ne communique. D'accord. Les joueurs, ils parlent plus avec leur président, ils parlent plus avec leur entraîneur. J'ai l'impression que c'est que des coups d'avocat, des coups d'État.
Non, c'est vrai.
Et ça tuera le football autant que l'argent. J'en suis désolé.
Mais parce que c'est parce que il y a des joueurs que tu payes trop cher et qui ont des valeurs plus importantes presque ton club en termes de valeur marchande et tout. Donc oui, c'est bien d'avoir des figures de proue, d'avoir figure marketing. Et je suis d'accord avec toi, Pierre, là-dessus. Peut-être qu'il y a des clubs qui en ont besoin parce que pour rayonner, je suis d'accord, mais pas au détriment des valeurs. Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Il y a des clubs, il faut qu'ils s'y fassent. Il y a des clubs, le Bayern, par exemple, est une institution. Aucun joueur n'est plus fort que le Bayern de Munich. Ça, c'est un club qui l'a compris. Et bizarrement, ça les empêche pas de gagner. C'est con, ça, quand même.
Et,
tu vois?
Je vais te dire, Pierre, tu vois, je vais parler de la Juve. Excuse-moi, Cristiano Ronaldo est à la Juve et c'est pas pour autant que je le sens au-dessus de l'institution,
non,
et même très loin de là.
Il la respecte et il l'admire.
Je suis d'accord. Et ouais, et pourtant la Juve et pourtant Cristiano Ronaldo,
il,
c'est
et lui, il aurait des raisons. Il aurait des raisons presque
te,
de
c'est pour ça que
presque
je
de s'énerver ça, et de vrai. Dire franchement ça me saoule, j'ai l'impression de tout faire tout seul dans cette équipe. Il pourrait très bien lui aussi faire une déclaration et tout machin, aller dans le bureau d'Agnelli tout casser et dire oh franchement maintenant c'est comme c'est, soit tu me mets une équipe, soit je me casse quoi. Il pourrait très bien faire ça, mais il le fait pas parce que bah il sent qu'il fait partie d'un projet, d'un club avec une histoire forte. Mais ça peut être pareil pour des joueurs qui signent aujourd'hui au Bayern, dans d'autres grands clubs aussi.
Bon, messieurs, moi, j'ai pas envie qu'on rate le quiz comme la semaine dernière.
Non, faut pas qu'on le rate parce que je vous ai contre.
Parce que j'ai senti qu'on n'était pas bien, qu'il nous manquait quelque chose. Donc voilà, on a clos le sujet sur Messi. On va faire rentrer, bien sûr, les supporters dans le stadium RKS, comme on vous l'a dit. Mon Kevin, c'est toi qui nous a concocté, tu nous l'as dit. Apparemment, C'est un sacré quiz que tu nous as fait.
Moi, je vous le dis, je pense que ça va être un beau match que je vais vous offrir en direct sur RKS ce soir. Donc,
allez, tu peux y aller.
Allez. Donc, par contre, il y a un format un petit peu différent. Ah. Voilà. Faut que je vous le dise.
On n'est pas au courant.
Voilà. Il y a 5 questions, comme d'habitude. Ouais. Hein, donc, ça se jouera en trois points, hein, d'accord. Mais il y aura une 6e question pour le perdant.
D'accord.
S'il réussit à y répondre, il a qu'une seule chance par contre. Hein. S'il réussit à y répondre, il gagne le match, même s'il a perdu 5-0.
Oh là 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 là.
Voilà.
Incroyable.
Allez, ça rajoute un petit peu de piment.
C'est la RKS d'or.
Allez.
Allez, vas-y.
Première question. Qui suis-je? Je vais vous donner une liste de clubs pour lequel ce joueur a joué et vous devez me trouver le joueur. EC Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Chelsea. Arsenal.
Arteta?
Non. Oh, c'est facile.
Benfica, Chelsea.
Benfica, Chelsea, PSG, déjà, ça devrait vous.
Nicolas Anelka, non?
Non, quel club a fait Chelsea, PSG?
Quel club?
Et
quel joueur?
Quel joueur? Récemment. Il joue encore.
Récemment? Giroud?
Non, il joue à Arsenal là maintenant.
C'est Seigneur, Stefano Bameyang.
C'est un défenseur brésilien. Oh là là, vous êtes nul.
David Luiz.
Oui!
Je voyais ses cheveux. Le nom, il venait pas.
Oh putain.
Allez.
Putain, je voyais ses cheveux, bordel de merde.
1-0.
Allez.
Deuxième question.
Qui a dit Cristiano Ronaldo peut prendre sa retraite à tout moment, il a tout gagné. Titre avec différentes équipes, avec son équipe nationale, non. Et ses titres individuels, mais Messi doit encore beaucoup au monde du football. Il n'a rien gagné d'important pour son équipe
Maradona.
Depuis que Xavi et Iniesta ont pris leur retraite. Il n'a rien gagné d'important pour Barcelone. Et maintenant, avec le VAR, il n'est pas en mesure de gagner en dehors du Camp Nou. Au final, le temps montre la réalité. Cristiano est le meilleur du monde. Messi
Ramos.
Peut être le meilleur du Barça. Non. Un entraîneur.
Guardiola.
Non.
Luis Enrique?
Non.
Zinedine Zidane, je l'ai déjà dit.
Non.
Carlo Ancelotti.
Allez, il entraîne en Angleterre. Non, pas Carlo Ancelotti.
Jürgen
Wenger.
Oui, Jürgen Klopp. 2-0, Melvin.
Putain, Klopp, il a dit ça.
Ah ouais.
Mais non.
Eh ouais.
Ah, c'est chaud. Ouais, ça me surprend, Jürgen Klopp.
Ouais, t'as vu cette déclaration, cette punchline là?
Ah bah, t'es sûr déjà? Oh, on vous l'annonce, Messi n'ira pas à Liverpool.
2-0.
Allez, 2-0.
Troisième question.
Quel coach? Alors, je vous donne une succession de clubs qui l'a entraîné. Vous devez me trouver le nom du coach. Reggiana, Parme, Juventus, Milan, Chelsea.
Inzaghi.
Non, PSG.
Conte.
Non.
Ancelotti.
Oui,
bah ouais,
Ancelotti. Madrid, Bayern, Naples et Everton.
Il a entraîné des sacrés clubs, Carlo Ancelotti.
Eh ouais, quand
putain,
même.
Le Louis, je sens qu'il va me faire mal là, sur cette émission.
Allez, 2-1.
Putain.
Allez, c'est parti.
Combien de ballons d'or a Maradona?
3.
Non.
2.
Non.
1.
4.
Non.
6.
Non.
5.
Non.
7.
0.
0.
0.
Oh.
Est-ce que vous savez pourquoi?
Mais putain, je suis choqué.
Est-ce que vous savez pourquoi?
Mais je suis choqué.
Parce que jusqu'à assez récemment, le Ballon d'Or n'était pas ouvert aux joueurs sud-américains, enfin en dehors de l'Union européenne.
Eh oui. exact.
Donc il n'a jamais gagné de ballon d'or. Il en aurait certainement gagné si ça avait été le cas.
Ça veut dire que Pelé, Eusebio oui. n'ont pas les ballons d'or.
Non, mais Pelé, il en a eu un de manière rétroactive.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça.
Oh là là.
Et le 2-2.
Cinquième question.
Allez, 2-2.
Elle était vicieuse, elle était bien.
Elle était vicieuse, celle-là.
Vous avez vu ça?
Le but le plus rapide en Coupe du Monde. Alors attention.
Miroslav Klose.
Attendez.
14 secondes.
Je veux le nom du joueur. La minute précise à laquelle il a marqué. Si vous me donnez les deux équipes et vous me donnez les voilà, c'est ça. Si vous me donnez les deux équipes qui se posaient ce jour-là, vous gagnez à coup sûr.
Allemagne.
D'accord. Non, je veux le nom du joueur, la minute précise. D'accord. Du but le plus rapide marqué en Coupe du Monde.
Bah, la minute précise, c'est la première minute.
Oui, mais alors les secondes, alors si tu les as.
24 secondes.
Non.
14.
Non. C'est dans la Coupe du Monde 2002.
Entre la Corée et...
Oui.
Putain, je le sais, il y a la Corée dedans face à...
C'est pour le match pour la troisième place.
Donc c'est Corée... C'est pas Corée-Italie? Non, c'était en quart de finale, huitième de finale. Mmh. Non, putain.
C'était contre la Turquie.
Bon, Corée-Turquie.
Moi, je l'ai pas.
But de Parkson.
Non. Non, c'est un Turc.
C'est un Turc.
Un attaquant.
Hakan Şükür.
Oui.
Oh putain, la chute.
Bravo.
Hakan Şükür. C'est bon, je suis
11 secondes. 11 secondes et Melvin gagne. Ouais, attention, Pierre, tu vas avoir
dernière
une opportunité.
Question,
tu vas pouvoir avoir une opportunité.
Une réponse, on est bien d'accord.
Une réponse.
Allez, c'est parti.
Je ne sais pas si vous le savez, mais Benevento vient de monter en Serie A. D'accord. Ça va après
ça,
quelques années. Qui est l'entraîneur de Benevento?
Benevento. C'est un ancien entraîneur de première série, c'est un joueur. C'est pas Inzaghi, justement?
Bah si, c'est Inzaghi.
Et c'est Inzaghi. C'est Pippo Inzaghi. Le buteur des Renards des Surfaces.
C'était une question pour Pierre, hein, mais bon. Écoute.
Ouais, mais bon.
Pippo Inzaghi. Eh ben, messieurs, ça se clôture la meilleure des façons.
Bah, j'ai envie de te dire qu'à chaque quiz, il sort Pippo Inzaghi. Je pense qu'il a dû se faire piper par
Carlo
Pippo Inzaghi.
Carlo Ancelotti, Pippo Inzaghi. Il a fait jouer la communauté, c'est normal.
Voilà, bravo Melvin. C'est ta combienième de victoire, la
deuxième?
La deuxième. Moi, j'en ai quatre. Et toi, t'en as deux.
Attends, d'ailleurs, le deuxième prénom de ta fille, c'est pas Pippo Inzaghi.
Non, non, elle s'appelle Joy Sonia.
C'est très joli, voilà. En tout cas, c'est très joli.
Bon, messieurs, merci encore pour cette émission, c'est un régal. Ouais. On se retrouve lundi prochain, 19h. Restez sur
Fais partir les supporters, là.
Ouais, j'aime bien, moi, dans le stade.
En plus, il y en a, il a pas son masque, là, ce bordel. C'est...
Bon, merci à tous, en tout cas, et on se retrouve lundi, 19h sur RKS.
Allez, et suivez-nous sur les réseaux.
Bye
à bientôt.
Bye.
À bientôt.
RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.